VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 20 octobre 2022 au Tchad, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre à N'Djamena ont fait une cinquantaine de morts.
Ici, même l'ambassade des États-Unis à feu, gaz c'est partout.
Pas de réel. Compte rendu des manifestations dans un instant. Dans l'est de la RDC, une attaque de centre de santé attribuée aux rebelles ADF fait 7 morts. L'Éthiopie annonce sa participation à des discussions de paix le 24 octobre en Afrique du Sud pour tenter de mettre fin à la guerre dans la région du Tigré. La première ministre britannique Liz Truss démissionne.
Sa position était intenable parce que d'abord, je pense qu'elle a été élue par une petite minorité.
Halifa Thiam, professeur de français à la retraite à Glasgow en Écosse, que l'on retrouvera dans la partie magazine. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco et l'Espoir. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Une cinquantaine de personnes sont mortes ce jeudi au Tchad lors d'affrontements entre police et manifestants. Des partisans de l'opposition ont saccagé et incendié le siège du parti du Premier ministre Saleh Kebzabo, nommé la semaine dernière. Les manifestants protestent contre le maintien au pouvoir du président du Conseil de transition Mahamat Debi et la prolongation de la transition. Et l'atmosphère était plutôt électrique aujourd'hui à N'Djamena, avec une jeunesse déterminée malgré les tirs à balles réelles. Le bilan provisoire est d'au moins 50 morts selon le Premier ministre.
C'est ce qui nous appartient. Vous savez, ce pays n'est pas pour une communauté, n'est pas pour une ethnie. Le Tchad n'est pas un royaume. Le Tchad, c'est la République. Et nous ne voulons pas le désordre dans ce pays. Et je viens un appel à Djibadoum Tiraina de nous rejoindre. S'il ne veut pas qu'il rejoigne ces gens.
Nous ne faisons pas la politique contre qui que ce soit. Il faut que les politicos, militaires et civils la sachent bien que nous cherchons la liberté et l'égalité, la justice. C'est ce que nous cherchons dans ce pays. Nous sommes tous des diplômés. Mais seulement que le pays est pris en otage par un seul ethnie. C'est l'égalité et la justice. Rien d'autre. On va marcher jusqu'à demain. Si on nous tire à balles réelles, même on va marcher.
Voilà, ici, même dans l'ambassade des États-Unis, à feu. Gaz, c'est partout.
Balles réelles. Non à la bureaucratie, oui à la démocratie. Voilà. On est prêts. On est prêts, déterminés, debout jusqu'à la fin.
Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 20. Le 20, c'est la rupture. Et là, la rupture qui commence comme ça. Oui, c'est les barricades. On ne pourra jamais tuer 60 manifestants. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Plus on tue, plus eux-mêmes précipiteront leur sortie. Ceux qui doivent mourir aujourd'hui doivent mourir debout, tout simplement. Ils meurent en tant que des martyrs. Je viens d'apprendre qu'un journaliste de CFO, Radio CFO, est tué. Paix à son âme, mais il meurt en tant que martyr. Il est juste parti couvrir un événement, il a trouvé la mort. Vous voyez ça? C'est quel pays? Quel pays on peut tuer un homme de presse qui va juste couvrir un événement? On le tue. C'est pas possible, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, c'est la rupture. 18 mois, c'est 18 mois. Si un jeune de ton âge peut réussir facilement en affaire parce qu'on lui crée toutes les conditions, ben toi, qu'est-ce qu'il te reste? Ce qui te reste, c'est la rupture. Pour que toi aussi, tu puisses vivre des ressources de ton pays comme les autres parce que tu es chez toi. Et c'est ce que les jeunes aujourd'hui sortent pour réclamer.
C'était le compte-rendu sonore des manifestations aujourd'hui dans la capitale tchadienne, des réactions recueillies par notre correspondant sur place, André Kodmajinga. Le premier ministre tchadien Saleh Kebzabo a annoncé la suspension de toute activité des partis d'opposition et décrété un couvre-feu. Les Nations Unies ont déploré les violences et demandé une enquête sur les décès. La France, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a condamné les violences avec l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, a souligné le Quai d'Orsay, affirmant que Paris ne joue aucun rôle dans ces événements. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a condamné fermement la répression des manifestations, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens et à privilégier les voies pacifiques pour surmonter la crise, a-t-il réagi sur Twitter. En Guinée également, des heurts ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité dans la banlieue de Conakry, faisant une vingtaine de blessés, a indiqué le collectif pour la défense de la Constitution, FNDC, qui a appelé à la mobilisation. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal. Au Nigeria également, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau un rassemblement à Lagos marquant le deuxième anniversaire de manifestations contre les violences policières qui avaient été durement réprimées. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 7 personnes ont été tuées et un infirmier kidnappé la nuit dernière dans une attaque attribuée à des rebelles ADF. Eric Manirakiza.
Selon Norbert Mohindo, infirmier au centre de santé de la localité d'Omboya dans le territoire de Beni, des rebelles ADF sont arrivés à Omboya aux environs de minuit. Ils ont mis le feu d'abord au centre de santé de référence et ont même tué des malades. Selon lui, ils ont continué à semer la terreur et ont brûlé l'hôpital de Tingé appartenant à la communauté protestante. Roger Wangeve, président de la société civile de la chefferie des Bachou, confirme cette incursion des rebelles ADF. Il indique que les assaillants ont ensuite brûlé et pillé des villages. Après quelques semaines d'accalmie, les attaques semblent avoir repris dans le territoire de Beni, où les armées congolaises et ougandaises mènent depuis près d'un an des opérations conjointes contre les rebelles ADF. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis mai 2021, une mesure exceptionnelle qui n'a pas réussi à stopper les violences.
Au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées ces dernières 48 heures dans des affrontements entre tribus rivales dans l'état du Nil Bleu, dans le sud du Soudan. Le directeur de l'hôpital du village de Wad al-Mahi, où ont eu lieu ces violences, a fait aussi savoir que 86 personnes ont été blessées mercredi et jeudi. Le gouvernement éthiopien a annoncé ce jeudi qu'il participerait le 24 octobre en Afrique du Sud à des pourparlers organisés par l'Union africaine, une initiative pour tenter de mettre fin à la guerre au Tigré. Mohamed Oumfa.
La commission de l'Union africaine nous a informé que les pourparlers de paix sont fixés au 24 octobre en Afrique du Sud. Nous avons reconfirmé notre engagement à participer, écrit dans un tweet Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed. La commission de l'UA n'a pas officiellement annoncé ses pourparlers et n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de confirmation. Nous avons déjà annoncé que nous prendrions part à un processus de paix sous l'égide de l'UA, a déclaré Getachew Reda, un porte-parole des rebelles du Tigré, sans référence à la date du 24 octobre. L'Union africaine a récemment mis sur pied une troïka dirigée par son envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, assisté de l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta et de l'ancienne vice-présidente sud-africaine Phumzile Mlambo Nkuka pour faire la médiation. De précédents pourparlers convoqués début octobre en Afrique du Sud n'ont jamais commencé en raison des problèmes d'organisation selon des diplomates.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Liz Truss a démissionné après 6 semaines à Downing Street. Les conservateurs sont en quête d'un nouveau dirigeant dans un pays en pleine crise économique et sociale. Nathalie Barge.
Étant donné la situation, je ne peux accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur, a déclaré Liz Truss, précisant qu'un scrutin pour lui trouver un successeur au sein du Parti conservateur aura lieu d'ici à la semaine prochaine. Le président du comité 1922, Graham Brady, a indiqué que le scrutin verra s'affronter 2 candidats maximum. Le parti relance ainsi une élection, alors que la précédente a eu lieu cet été après la démission de Boris Johnson sur fond de scandale. Avant cette annonce, Downing Street avait dit que Mme Truss travaillait avec le ministre des Finances, Jeremy Hunt, pour préparer leur plan économique de moyen terme, alors que la liste de parlementaires conservateurs demandant son départ s'allongeait. C'est la présentation d'un budget avec des aides aux factures énergétiques et des baisses d'impôts non financées selon ses détracteurs qui a provoqué la chute de Mme Truss. Ce plan a fait chuter la livre et affoler les marchés.
Le président américain Joe Biden fait campagne ce jeudi avec le candidat John Fetterman en Pennsylvanie où démocrates et républicains se livrent une lutte acharnée pour un siège de sénateur qui pourrait faire basculer la majorité à la Chambre haute du Congrès. Et puis l'armée ukrainienne s'est je l'ai dit aujourd'hui, inquiète de la menace croissante d'une nouvelle offensive russe depuis le Bélarus, son voisin du nord, dont le territoire a servi de base arrière aux forces russes pour leur invasion de l'Ukraine au mois de février. La menace de reprise de l'offensive sur le front nord par les forces armées russes grandit, a déclaré à la presse Oleksiy Gromov, un responsable de l'état-major militaire ukrainien. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Lors du discours d'ouverture du sommet Finances en commun à Abidjan hier, le Premier ministre ivoirien Patrick Hatchi a exhorté les banques de développement à mieux soutenir le secteur privé et les énergies renouvelables. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a estimé qu'il faut assurer les transitions énergétiques en fonction des besoins des pays en développement. Le sommet prévoit des discussions sur les infrastructures vertes, la santé et la protection sociale. Après son séjour à Londres, le président congolais est à Accra. Félix Tshisekedi et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo prévoient des discussions sur la lutte contre le changement climatique à l'approche de la COP27 en Égypte. Hier à Londres, M. Tshisekedi s'est exprimé à une conférence de l'Institut royal des affaires internationales. Les questions ont porté sur la situation sécuritaire, la préservation de l'environnement et l'exploitation des minerais. En Afrique du Sud, l'autorité de conduite du secteur financier a classé les cryptoactifs comme produits financiers afin de réglementer ce marché en empêchant les fraudes et le blanchiment d'argent. Ces actifs numériques ne sont pas émis par une banque centrale, mais peuvent être échangés, transférés ou stockés électroniquement à des fins de paiement et d'investissement, souligne l'autorité de régulation qui prévoit l'octroi de licences ou plateformes d'échange de crypto-monnaies.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
NBA pour commencer, le choc de la nuit d'hier a tourné à l'avantage de Phoenix.
Oui, les Suns se sont imposés sur le fil 107-105 face au Dallas Mavericks. Après avoir accusé jusqu'à 22 points de retard au troisième quart-temps, comeback gagnant de l'ailier fort de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, absent des parquets depuis plus d'une saison sur blessure, il a inscrit 25 points contribuant au succès 130-108 des Pelicans face aux Nets à Brooklyn. Dans le Tennessee, la soirée a été moins joyeuse pour les Knicks battus en prolongation 115-112 par Memphis. Minnesota s'est offert Oklahoma City 115-108.
Football, la Sierra Leone lance son premier championnat féminin.
La première ligue professionnelle de football féminin a débuté avec un match inaugural dans la ville de Makeni, dans le nord de la Sierra Leone. Il s'est disputé entre les Mena Queens et les Kaunla Queens. Ce match a donné le coup d'envoi d'une saison de 6 mois, au cours de laquelle 12 clubs de tout le pays vont s'affronter. Suivi. Ambiance, bon enfant pour ces footballeuses sierra léonaises qui se sont parées de leur meilleure tenue sportive pour un événement tout aussi inédit. C'est la première fois que le pays connaît un championnat féminin de football et les fans du ballon rond sont au rendez-vous.
Nous sommes des supporters de Kaunla. Nous sommes venus soutenir nos sœurs pour remporter la première ligue féminine. Depuis et pour toujours dans l'histoire de la Sierra Leone, nous assistons à la première ligue féminine et nous espérons partir d'ici avec la victoire.
Cette première saison regroupe 12 clubs qui doivent convaincre les autorités qu'elles ont eu raison d'instaurer un tel championnat féminin. Ces clubs vont s'affronter jusqu'en avril 2023 pour une somme dont le montant n'a pas été précisé et un trophée. Ibrahim Nielenke, ministre des Sports de la Sierra Leone.
Je suis honoré. Vous savez que c'est une grande chance pour moi d'être ici, car je crois que c'est grâce à ma propre détermination que des activités aussi uniques ont lieu.
Le match inaugural met aux prises au stade de Makeni une équipe de cette ville appelée Mena Queens et une autre de la localité de Kenema dénommée Kaunla Queens. Le coup d'envoi est donné par la première dame de Sierra Leone, Fatima Bio, en présence du président Julius Mada Bio. Les défis sont collectifs pour les équipes, mais aussi individuels. Mariatou Conté, capitaine des Mena Queens.
Mon père m'a toujours dit, ce que les hommes peuvent faire, les femmes ne le peuvent pas. Et je veux mener cette bataille. Je suis en train de la mener.
Pour ce match inaugural, les nombreux fans en ont eu plein les yeux. Les supporters espèrent que cette compétition va relancer l'équipe nationale qui n'a pas pu se qualifier pour la CAN féminine disputée cette année au Maroc.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Grande-Bretagne, la première ministre Liz Truss a annoncé sa démission. Elle a remplacé Boris Johnson début septembre, mais a déjà été contrainte à une série de revirements sur ses promesses de campagne et a dû vite changer de ministre des Finances. Pourquoi Liz Truss est restée si peu de temps à la tête du gouvernement britannique? Idriss Fall a joint Khalifa Thiam. Il est professeur de français à la retraite à Glasgow, en Écosse.
Sa position était intenable parce que d'abord, je pense qu'elle a été élue par une petite minorité. Le parti conservateur traverse des moments difficiles. Il y a plusieurs factions. Il y a une faction qui est plus ou moins à l'extrême droite et il y a une faction un peu au centre et à droite. Donc là, pour juguler tout ça, c'est très difficile. Et en plus de cela, c'est le deuxième Premier ministre qu'on a élu, qu'ils ont élu, que le peuple n'a pas élu. Donc c'est une position difficile.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, côté constitutionnel, le parti conservateur peut très bien appeler ses militants, ses parlementaires, et décider entre eux de nommer un troisième Premier ministre. Alors, parce que quand on nomme ici un Premier ministre, en tout cas le parti conservateur dit toujours dans leur statut qu'un Premier ministre qui a été élu, on lui donne toujours 10 mois. Mais bon, ce sont des règles qui sont intérieures au parti conservateur. Mais là, bon, il y a l'autre côté, c'est le côté politique. Elle n'a pas un mandat démocratique. Donc c'est ça le problème en ce moment.
Donc l'Angleterre, on a l'impression qu'en dehors des problèmes socio-économiques, est en train de s'enliser dans une crise politique depuis le départ de Boris Johnson.
Tout à fait. Et le départ de Boris Johnson a été très compliqué. Il y avait beaucoup d'acrimonie dans le parti conservateur. Et puis voilà, et lui, il attend sur le côté. Il va peut-être bien revenir, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, le parti travailliste demande l'organisation des élections. D'élections anticipées, alors. N'importe quel premier ministre qui va être choisi par les Tories n'a pas de mandat démocratique.
Khalifa Thiam, professeur de français à la retraite à Glasgow en Écosse.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Ici aux États-Unis, certains législateurs républicains remettent en question le montant de l'aide américaine à l'Ukraine, invoquant la récession imminente, la nécessité d'une plus grande surveillance et les préoccupations concurrentes de la Chine en matière de sécurité. Les sondages prévoient la victoire du Parti républicain qui lui permettra de prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. Comment une éventuelle nouvelle configuration politique pourrait affecter le soutien américain à l'Ukraine à l'avenir? Suivez ce reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de VOA à la Maison-Blanche. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Les Ukrainiens sont encore sous le choc des attaques de drones et de missiles sur la capitale Kiev et d'autres villes. Ces frappes ont détruit des bâtiments et des infrastructures civiles. Olena Chuliak est la chef du Parti serviteur du peuple de l'Ukraine.
Notre peuple meurt tous les jours. Chaque jour, nous défendons la démocratie dans le monde entier. Vous pouvez voir ce qui se passe quotidiennement avec le bombardement et la destruction de nos maisons et le meurtre de notre peuple. Vous ne pouvez pas diminuer le soutien, seulement l'augmenter.
Olena Chuliak a déclaré à VOA que les Ukrainiens suivent de près la politique américaine avant les élections de mi-mandat en novembre, au cours desquelles les démocrates pourraient perdre leur mince majorité au Congrès. Si les républicains l'emportent, la Chambre des représentants pourrait s'opposer à une aide accrue à Kiev. Mardi, le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré à Punchbowl News qu'avec la récession qui s'annonce, les Américains ne vont pas signer un chèque en blanc à l'Ukraine. D'autres législateurs républicains ont également déclaré que les États-Unis devraient se concentrer davantage sur la menace du renforcement militaire chinois. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, répond à ces préoccupations.
Nous allons continuer à travailler avec le Congrès et à suivre ses conversations sur ses efforts et à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons tenir cette promesse que nous faisons aux courageux Ukrainiens qui se battent chaque jour pour leur liberté et leur démocratie.
Selon les observateurs, avec la montée des tendances isolationnistes au sein du Parti républicain, certains craignent que l'aide à l'Ukraine diminue, notamment pour les besoins humanitaires et économiques. En revanche, l'aide américaine à la sécurité suscite moins d'inquiétude. C'est l'avis de Christine Berizna, chargée de mission pour la politique de sécurité de défense au German Marshall Fund of the United States.
If you think about the interest on the right in general to support the military industrial,
si vous pensez aux intérêts de la droite en général à soutenir le complexe militaro-industriel et l'industrie aux États-Unis, eh bien, quel est le besoin désespéré des Européens en ce moment en Ukraine et surtout le flanc oriental de l'OTAN? C'est le besoin de systèmes d'armes, depuis les munitions jusqu'aux systèmes d'armes très sophistiqués comme les HIMAR, les drones. Et les budgets de défense augmentent de manière si significative en Europe que l'augmentation des dépenses de défense dépasse les sources disponibles.
Les États-Unis ont autorisé plus de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont plus de 17 milliards de dollars d'aide à la sécurité ont été versés depuis le début de la guerre. En mai, le Sénat a voté pour plus de 40 milliards de dollars de nouvelles aides militaires et humanitaires. Certains républicains ont voté contre.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, des heurts mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité ce jeudi dans différents quartiers de la banlieue de Conakry. Le Front National pour la Défense de la Constitution, officiellement dissous par la junte, a appelé à manifester pacifiquement à Conakry, puis le 26 octobre dans tout le pays. Il réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération des prisonniers détenus, selon lui, pour des raisons politiques. Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry Abdoulaye Oumousso, chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC.
Nous avons appelé à manifester pour dénoncer la confiscation du pouvoir par la junte militaire, pour dénoncer le musellement des citoyens de démocratie, la restriction de l'espace civique, mais également pour l'ouverture d'un dialogue franc et sincère conformément à l'article 77 de la Charte de la Transition. Et vous savez que depuis un certain moment, la junte militaire sortine a confisqué les libertés publiques, elle a arrêté le coordinateur national du FNDC, elle a arrêté le responsable des opérations du FNDC, elle a également arrêté plusieurs autres personnalités politiques mais aussi sociales, tout simplement parce que ces personnes ont demandé à ce que des conditions soient créées pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc elles n'aiment pas voir les voix dissonantes et ces voix dissonantes sont muselées.
Quel bilan justement faites-vous de la manifestation? Il y a une répression.
Il y a une répression féroce qui est en cours, d'autant plus qu'au-delà des forces de défense et de sécurité qui ont été déployées, il y a l'armée également qui est venue en appoint, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées Bata, venant du camp Zaïa Diallo, mais aussi les groupements du JIR, le groupement d'intervention rapide. Ce sont des unités d'élite de l'armée qui n'ont rien à faire dans des manifestations, mais malheureusement aujourd'hui qui se retrouvent dans les rues de Conakry pour embastiller les populations. Et c'est ce que nous vivons au temps de cette junte militaire au pouvoir, parce qu'on veut faire taire toutes les voix dissonantes. On empêche l'expression plurielle des populations qui ne voyaient pas cette transition de la même manière que le CNRD.
Est-ce que vous n'avez pas eu un autre cadre d'expression ou de revendication face au gouvernement?
Cette junte militaire au pouvoir est là depuis 13 mois. 13 mois, c'est suffisant pour nous d'observer. Nous avons fait des propositions de chronogramme. Nous avons fait des plaidoyers auprès des leaders religieux, coutumiers, mais aussi des sages de ce pays pour qu'ils puissent expliquer à cette junte militaire que la voie la plus normale, c'est d'écouter les expressions plurielles des populations qui se sont battues pendant ces dernières années pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Et l'essentiel pour nous, c'est que la junte permette des conditions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays. Malheureusement, elle ne le permet pas jusque-là. Elle s'obstine à confisquer le pouvoir et par la force des baïonnettes, elle va s'imposer en violant la charte de la transition qu'elle-même a mise en place.
Aux yeux de la junte au pouvoir, vous êtes dissous et donc vous n'existez pas. Je parle du Front National de Défense de la Constitution. Comment vous réagissez à cela?
Nous existons avant le CNRD, nous allons exister après le CNRD. Nous trouvons notre légitimité par la réponse des populations à nos appels à la protestation, mais aussi par l'expression que nous portons, qui est celle de la voix des citoyens à la base, qui aspirent à un pays démocratique et vertueux, et nous pensons que nous sommes les porte-voix de ces sans-voix.
C'était Abdoulaye Oumousso, chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution guinéenne. Le Kenya veut renégocier une dette de plusieurs milliards de dollars accordée par la Chine pour la construction d'une importante ligne ferroviaire. Le nouveau ministre des Transports a assuré les législateurs que le Kenya est à jour dans ses paiements, mais ne peut pas continuer avec le calendrier actuel de 20 ans. Le reportage de Mohamed Youssouf depuis Nairobi, le récit est de Michel Joseph.
Le ministre des Transports du Kenya estime que les conditions actuelles de remboursement des prêts chinois sont intenables. Répondant aux questions d'une commission parlementaire, Kipchumba Murkomen a dit que son pays devra demander un délai de paiement plus long pour les prêts utilisés pour construire ce que l'on appelle le chemin de fer à écartement normal.
Une décision stratégique a été prise à l'époque. Nous investissons dans l'infrastructure et le gouvernement du Kenya paie dans les 15 à 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes étouffés par cette dette car nous payons 80 millions de dollars par an. Nous sommes prêts à continuer à payer le montant fixé, mais nous devrions renégocier la durée de paiement sur 50 ans.
Le Kenya a emprunté 5 milliards de dollars pour construire la ligne ferroviaire entre le port de Mombasa et la ville de Naivasha, à l'ouest de Nairobi. Le chemin de fer a été ouvert au public en 2017 et le gouvernement a obligé les entreprises à transporter des marchandises par la voie ferrée pour aider à rembourser le prêt. Surtout que le chemin de fer perd de l'argent.
Il devient impossible de rembourser cette dette par les revenus qui proviennent du chemin de fer. Et même dans 50 ans, il ne sera pas rentable si vous chargez le prêt au chemin de fer.
Le précédent gouvernement est accusé d'avoir trop emprunté pour financer des projets, ce qui a également augmenté la corruption. La Chine a aussi financé une voie rapide de 27 km à Nairobi, pour un coût de 734 millions de dollars. La plupart des accords entre le Kenya et la Chine sont opaques. L'accord pour la construction des chemins de fer est resté secret malgré une décision de justice exigeant qu'il soit rendu public. L'économiste kényan Gerishon Ikara affirme que la mauvaise gestion de l'argent et la corruption sont à blâmer pour les problèmes de la dette kényane.
Nous ne permettons pas que l'argent emprunté soit utilisé strictement pour le projet. Parfois, il y a beaucoup de corruption dans les projets par les appels d'offres pour les projets. Nous pourrions avoir beaucoup plus de kilomètres, mais l'erreur a été commise. La corruption a un impact négatif sur le coût total des projets dans ce pays.
Gerishon Ikara affirme également que les bonnes relations entre le Kenya et la Chine pourraient conduire à un paiement plus étalé de la dette. La Chine détient un tiers de la dette extérieure du Kenya. Le nouveau gouvernement, dirigé par le président William Ruto, a déclaré qu'il réduirait sa dépendance à l'égard des prêts étrangers et empruntera davantage sur le marché intérieur.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de vos programmes.